Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici à nouveau dans Lectures en liberté et nous allons continuer la lecture du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Gus se souvenait que, quand il était petit, son père l'envoyait toujours tirer du vin à la cave au moment des repas. Il devait alors ouvrir la petite porte au fond de la cuisine, descendre un escalier en bois sans contre-marche, une sorte d'échelle améliorée, avec un garde-fou fait d'un vulgaire tuyau en galvas. Un problème électrique que son père n'avait jamais résolu faisait que les plombs sautaient une fois sur deux quand on allumait la lumière. Pour ne pas le mettre en rogne, Gus descendait avec une lampe électrique, en faisant attention à ne pas louper de marche, ce qui l'aurait conduit en bas plus rapidement que prévu, le cul en compote par-dessus le marché. Une erreur que son père lui aurait probablement pardonnée à vide, mais certainement pas avec une bouteille pleine entre les mains. À chaque descente, c'était pourtant une sensation de joie qui lui venait, au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans la cave, dans ce silence gardé par les grosses pierres dissemblables des murs, au milieu des vapeurs soufrées et des cadavres de bouteilles, avec leur fermoir en porcelaine, qui avait contenu du cidre jadis, à l'époque où on ramassait encore les petits fruits boursouflés et tavelés des pommiers plein vent, et qu'on ne les laissait pas bouffer par les vaches à mesure qu'ils tombaient par terre. Le grand plaisir du gamin, c'était de balancer le faisceau de la lumière à l'intérieur de la cave et de surprendre des araignées grosses comme une main, sa main. Aussi loin qu'il lui était possible de remonter, Gus n'avait pas le souvenir d'avoir éprouvé de la peur, même quand un rat déboulait de derrière une des barriques pour se fourrer dans un des trous du mur. Ce qui l'incitait à se demander comment la maison pouvait encore tenir debout, vu qu'il pensait que les rats étaient capables de bouffer la pierre avec leurs dents aussi facilement que du fromage. Ça n'aurait vraiment pas gêné Gus qu'une telle chose arrivât au moment où il était enfermé dans la cave, se disant que ce ne serait pas donné à tout le monde d'avoir une tombe de ce genre. Il devait avouer que, bien des fois, il avait espéré que ça se produise, pendant qu'il tournait le robinet serti dans le bois de la barrique et qu'il regardait un vin épais giclé dans la bouteille, puis qu'il ralentissait progressivement le débit quand le niveau du liquide approchait du goulot. C'est qu'il ne fallait pas en perdre une seule goutte. Avant de remonter donner sa ration quotidienne à son père, qui trouvait immanquablement que Gus avait été trop long. Sa contrariété oubliée, le père renversait le goulot de la bouteille dans son verre, comme il l'aurait fait avec une cheville pour planter une salade le long d'un cordeau tendu, puis il buvait cul sec cette bénédiction, et faisait claquer sa langue contre son palais en même temps qu'il reposait bruyamment son verre vide sur la table en disant « Encore un que les boches n'auront pas !» Gus l'observait attentivement, en se disant que le vin apportait plus de choses qu'il n'en prenait, que c'était une des grandes lois de la nature étant donné que son père était bien plus calme quand il avait picolé, comme apaisé, que ce qui se passait à l'intérieur d'un homme, après un verre ou deux, était une expérience à vivre chaque jour, un délicieux engourdissement qui faisait voir les choses différemment, qui vous conduisait à regarder à l'intérieur de vous sans vous laisser emmerder par ce qui se passait autour. Il n'y avait qu'à regarder Gus et observer les regards fuyants des gens pour y déceler le dégoût qu'il inspirait. Des filles, il en avait regardé quand il était plus jeune, qu'il trouvait plutôt jolie, qui aurait même fait son affaire et à qui il lui arrivait de penser en se masturbant le soir dans son lit. Au mieux, elles passaient leur chemin sans le voir. Au pire, elles lui riaient au nez en se moquant de ce qu'elles voyaient au dehors. Elle ne valait pas mieux que sa mère, sauf une, qui l'avait regardée autrement, qui lui avait donné et repris l'espoir et qui continuait aujourd'hui à accompagner son cœur. Mais ce n'était pas le bon moment pour aller dans cette direction. Le calvaire avait véritablement commencé quand ses parents avaient envoyé Gus au catéchisme. Les autres gamins l'appelaient « Nabucodonosor ». À ce qu'il paraissait, Nabucodonosor avait été le roi de Babylone. Il en était question dans la Bible. Il faut dire que les enfants, ça n'a pas de pitié en eux. Ils appuient sur la tête des plus faibles pour ne pas se deviner. Depuis ce temps-là, Gus n'aimait pas vraiment les gens. Et quand il réfléchissait à ce qu'ils avaient en commun, eux et lui, il les aimait encore moins. Ces fragments d'enfance remontaient à la surface comme des corps sans vie gorgés d'eau, et ça n'était visiblement pas prêt de s'arrêter. En prenant plus de temps, Gus aurait pu trouver des excuses à son père. Quant à sa mère, pas la peine d'essayer. La meilleure idée qu'elle avait eue de toute sa vie, c'était de laisser son fils seul. Jusqu'à son dernier souffle, Gus se souviendrait du jour où il l'avait découverte, pendue dans la grange, après une poutre, juste sous la barge à foin. Il en aurait chialé, tellement il était heureux de l'avoir tirée sur la corde. Avec ses mains qui avaient fait tant de mal à se tortiller comme une pintade qu'on étouffe, parce qu'elle n'était pas encore morte quand Gus était entré dans la grange ce jour-là. Il avait ressenti une sorte de jouissance, un pouvoir tombé du ciel lui donnant un droit de vie et de mort sur celle qui avait toujours apparemment souhaité la sienne pour d'obscures raisons. Il lui aurait suffi de pousser une botte de paille, de grimper dessus et de soulever sa mère par les jambes. Il y aurait eu alors suffisamment d'air qui serait entré dans ses poumons et serait été reparti pour un tour de piste. Mais il n'avait rien tenté. L'idée de toucher ce corps sec le dégoûtait, même à travers les vêtements, la blouse en tergale qui se plaignait à chaque mouvement et les bas déchirés par l'obstination des jambes à se frotter l'une contre l'autre, comme si sa mère s'évertuait à vouloir monter sur les barreaux d'une échelle qu'elle était bien la seule à imaginer. Gus avait fait glisser une botte de paille tout près de sa mère et s'était assis dessus pour la regarder gigoter et en quelque sorte jouir du spectacle. Elle ne voyait probablement pas son fils. Pourtant, il aurait bien voulu que ce soit cette image-là qu'elle emporte dans la mort, avec toute sa mauvaise vie qu'elle ne devait pas manquer de voir défiler dans sa tête. Au bout d'un moment, Gus n'avait plus distingué que le blanc de ses yeux roulant sous ses paupières. Il n'aurait jamais cru que cela puisse durer aussi longtemps de passer de l'autre côté. Au final, il avait pensé que c'était un juste retour des choses, qu'elle souffre autant, qu'elle s'en aille de cette lamentable façon, et que c'était sans doute pas les remords qui étaient en train de l'étouffer. À l'instant précis où le corps de sa mère s'était détendu, simplement animé par quelques spasmes désordonnés témoignant des derniers morceaux de vie cherchant à sortir, Gus n'aurait pu jurer qu'elle ait eu l'idée d'en finir toute seule de cette façon. Ce qui avait tout déclenché s'était déroulé 15 ans plus tôt. Gus avait 19 ans. Il était en train de soigner les cochons quand il avait entendu un cri d'animal blessé. Il avait d'abord pensé que son père avait coincé sa mère dans un coin pour la violenter. Gus était sorti de la porcherie pour voir d'où provenait la plainte. Il ne mit pas longtemps à localiser qu'elle émanait de la grange. Ses jambes flageolaient de plus en plus au fur et à mesure qu'il progressait vers le bâtiment. Il avait ensuite lentement poussé la porte et s'était retrouvé à une dizaine de mètres de sa mère, qui miaulait comme une bestiole en rute, immobile, jambes écartées, bras pendant le long du corps. Elle semblait hypnotisée par l'acte qu'elle venait de commettre. Un de ceux qu'il est impossible de remettre en question, le père, gisait à terre, la poitrine transpercée par les trois dents d'une fourche. Lui non plus ne bougeait pas. Le sang avait déjà imprégné le foin tout autour de son corps. Son pantalon était baissé au niveau des genoux et Gus distinguait nettement le sexe dressé avec un genre de morve qui dégoulinait dessus. Il s'était alors souvenu de la mise en garde de sa mère, que si le père recommençait à vouloir la forcer, elle lui ferait la peau. Elle avait manifestement tenu parole.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après la pause musicale habituelle, nous revenons au roman de Frank Buys, Grossir le ciel. Gus pensa qu'elle allait basculer d'un moment à l'autre comme aspirée par le cadavre. Elle avait mis du temps à se ressaisir, mais elle n'était pas tombée. Puis, prenant conscience de la présence de son fils, elle s'était tournée dans sa direction. Dans un premier temps, Gus avait eu peur qu'elle dégrafe la fourche de la poitrine du père et la lui balance à son tour, mais elle était restée figée sur place. Il avait alors cru apercevoir une ou deux larmes au coin de ses yeux. s'il s'agissait bien de larmes, elle avait fait en sorte de les rapatrier au fond de ses yeux dans un clignement de paupières. Gus regardait tour à tour son père allongé et sa mère debout, sans parvenir à comprendre comment une telle chose était possible. Elle avait alors tenté de dire quelque chose à Gus, ou peut-être était-ce à elle-même qu'elle voulait s'adresser. Ce qui est sûr, c'est que rien d'audible n'était sorti de sa bouche grande ouverte. Voyant qu'elle était incapable de réagir, Gus était allé prévenir les secours. Ses jambes ne tremblaient plus du tout au moment de traverser la cour. Une fois sur place, les secours n'avaient pu que constater le décès, puis contacter la gendarmerie. La mère de Gus avait eu bien du mal à affirmer que son mari était tombé sur la fourche. Et ce n'était pas vraiment une époque où on considérait que forcer sa femme pouvait être assimilé à un viol. De toute façon, elle n'avait même pas essayé de se défendre le jour du meurtre, pas plus que lors du procès. Après de multiples tentatives, son avocat ne put jamais véritablement entrer en communication avec elle. Il était commis d'office, mais il avait fait son travail au mieux, parvenant à faire en sorte que la préméditation ne puisse être retenue. Il était assez fier de lui, le jour où sa cliente accueillit le verdict de 20 ans de réclusion d'un hochement de tête qui avait l'air de signifier que c'était bien comme ça. Par la suite, la mère de Gus ne posa jamais de problème durant sa détention à la maison d'arrêt d'Alès. Son comportement irréprochable lui valut même une réduction de peine de 5 années, dont elle se fichait visiblement pas mal. Elle fut donc libérée 15 ans après avoir tué son mari, tellement vieillie et amaigrie qu'on aurait juré qu'elle avait passé le double de temps derrière les barreaux. L'administration pénitentiaire avait prévenu Gus par courrier de la libération de sa mère. Il se souvenait du jour où elle avait débarqué, descendant d'un taxi avec une valise à la main. Il s'était débrouillé seul pendant les 15 dernières années et ce sort le satisfaisait pleinement, si bien qu'il avait fini par ne plus envisager lui-même que sa mère pourrait revenir un jour. Sa place n'était plus au doge. Alors, lorsqu'il l'avait vue au portail, droite comme un i, il avait véritablement pris conscience de la haine qu'il continuait à nourrir envers elle. Il avait tourné les talons sans rien dire, était rentré dans la maison, attendant qu'elle passe le seuil, un peu curieux du premier mot qu'elle prononcerait. Il saurait se défendre. Il était devenu suffisamment grand, un homme. Le soir était tombé, et Gus attendait toujours. Il s'était rendu plusieurs fois à la fenêtre pour voir au dehors ce qu'elle faisait. Constatant qu'elle n'était plus où l'avait déposé le taxi et pas non plus dans la cour, Gus s'était dit un court instant qu'il avait rêvé le retour du monstre. Mais il devait déjà avoir une idée de l'endroit où il la trouverait. En sortant de la maison, il aurait pu se rendre directement à l'étable pour soigner ses bêtes, mais il avait pourtant commencé par pousser la porte de la grange, histoire d'aller chercher quelques bottes de foin et aussi d'effacer l'ardoise avec la mauvaise apparition dessinée dessus. Dans le futur, jamais il ne prendrait le temps de réfléchir à son absence de réaction en découvrant sa mère suspendue à une poutre, juste au-dessus de l'endroit où elle avait empalé son mari sur une fourche à foin. Satané souvenir! Au moins, ils avaient détourné Gus des magouilles d'Abel, pour un temps. Mais ce n'était guère mieux, comme une blessure nouvelle à côté d'autres plus vieilles. Pour l'heure, il n'avait pas mieux à se proposer. Gus devait bien reconnaître qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui montait au doge, à part le facteur et Abel de temps en temps, et c'était pas seulement à cause de l'éloignement. qui voudrait avoir envie de causer pour rien avec quelqu'un comme lui ? Les gens sans opinion n'intéressent personne. Et Gus avait le sentiment d'être ce genre de personne-là, une colline bien arrondie plutôt qu'une montagne escarpée. Il y avait bien eu cet homme qui s'était pointé un jour avec un grand sourire, sous un crâne lisse, dans un costume noir, bien arrangé, sur une chemise blanche, avec une cravate rose par-dessus qui pendait comme une langue. Gus n'aurait jamais imaginé rencontrer un pingouin de cet acabit, capable à coup sûr de chier sans toucher les bords de la cuvette, pensa-t-il. En tout cas, il faisait attention où il posait les pieds pour s'approcher du portail fermé, cet oiseau-là, pour ne pas saloper ses beaux souliers brillants. Et il fallait bien avouer qu'il ne se débrouillait pas si mal dans cet exercice. Bon, il est vrai qu'on était en été, dommage. Gus se serait encore plus marré après les premières pluies d'automne. Décidément, le type ne collait pas avec le décor. C'était plutôt rare que Gus soit curieux au point de s'intéresser à quelqu'un comme à cet étranger. Il devait être dans un bon jour. Il s'était alors avancé jusqu'au portail dans son bleu de travail, imprégné de l'arôme du fumier qu'il venait de tirer à l'étable, et avait tendu une main au type, sans rien dire. Ça non plus, il ne l'aurait pas fait en temps normal. Le pingouin avait regardé la main tendue de Gus en tentant de masquer son dégoût, se sentant dans l'obligation de la serrer. Le geste commercial avait l'air de lui coûter cher. Puis le type s'était mis à parler, comme pour oublier ce qu'il était en train de faire et qui risquait de laisser des saletés dans sa paume, visiblement habituée à la crème Nivea. « Vous êtes bien Monsieur Targaud ? Gustave Targaud ? » ?»«
On le dirait bien. »
« Ben voilà, je travaille pour le Crédit des agriculteurs, je suppose que vous connaissez. » Gus n'aimait décidément pas ses manières. Chaque fois qu'il parlait, le type prenait sa respiration comme s'il s'apprêtait à déboucher des toilettes avec une ventouse.
« Ben c'est ce qu'on appelle une banque, pas vrai ?» avait fait Gus, avec un petit sourire qui en disait long sur le mépris qu'il réservait à ce genre d'établissement.
« Oui, enfin, c'est même un peu plus que ça. »«
Un peu plus qu'un endroit où on dépose l'argent qu'on a gagné avec sa sueur, pour que ce genre d'endroit s'en serve comme si c'était le sien ?»«
Ah, si notre métier s'arrêtait là, vous auriez le droit de penser ce que vous dites. »«
Ben, c'est ce que je pense. »«
C'est que c'est sûrement pas vous qui allez me dire ce que je dois penser. »«
Certainement, ce n'était d'ailleurs pas mon intention. »
« Ben encore heureux, je m'en voudrais que vous vous fassiez de fausses idées sur mon compte. C'est pas parce que je vis dans un trou que je me tiens pas un peu au courant de ce qui se passe ailleurs. »
Il était de moins en moins à l'aise. Et comme ce n'était pas tous les jours que Gus avait de l'amusement à portée de la main, il l'avait laissé venir encore plus près avec ses gros sabots vernis.
« Avez-vous un compte en banque, Monsieur Targaud ?» avait demandé le pingouin en prenant son air le plus mielleux.
« Oh, je crains qu'il n'y ait pas de coffre assez grand pour y fourrer tout ce que je possède. »
La répartie avait décroché un sourire au type qui se disait probablement que la voie était libre et qu'il avait gagné la confiance de l'indigène.
Bah, « Une banque comme la nôtre, c'est bien plus qu'un endroit où on dépose son argent, surtout pour les agriculteurs.
Bah, »« Ça tombe plutôt mal, parce que moi, je suis paysan.
Bah, »« C'est pareil, non ?»«
Pareil que quoi ?»
« Agriculteur et paysan, c'est le même métier, non ?»«
Pas pour moi. »« Mais je suppose que c'est pour ça qu'il y a agriculteur dans le nom de votre banque. Crédit. Je vois pas bien. »«
J'aime bien votre humour. »«
C'en était pas. » »« J'avais cru, il semblerait que ce soit un peu votre problème de croire des choses. » »«
Donc, par exemple, si vous voulez investir dans du matériel agricole, » la construction ou la rénovation de bâtiments d'exploitation, nous sommes en mesure de vous octroyer des prêts bonifiés à taux très intéressants. »
Le banquier avait repris son laïus sans s'occuper de la remarque de Gus.
« Investir, vous avez dit ?» demanda Gus.
« Bah, c'est en effet ce que j'ai dit.
Bah, regardez un peu autour de vous.
Vous pensez vraiment que c'est le genre d'endroit où on investit et que je suis le genre d'homme à avoir envie de ça à mon âge ?
Bah bien sûr, sinon je ne serais pas là à vous parler, sans compter que l'argent qui dort ne rapporte rien.
Nous y voilà.
Si vous voulez tout savoir, il a plutôt le sommeil léger, l'argent, par ici.
Et les vols, vous y avez pensé ?
Bah franchement non. Et vous sauriez tout ce que je sais, que ça vous chagrinerait pas plus.
Si je peux me permettre, il faut voir plus loin. Imaginez qu'un jour, vous vouliez vendre votre ferme. Vous auriez beaucoup plus de facilité et vous en tireriez un meilleur prix si tout était en parfait état.
Vous avez quelque chose à dire sur l'état de ma ferme ?
C'est l'état qui me convient à moi. Et de toute façon, cette ferme, elle mourra avec moi.
Désolé de vous le dire aussi abruptement, mais vous ne pourrez pas travailler jusqu'à votre mort. À un moment, il faudra bien que quelqu'un s'occupe des bêtes et de la bonne marche de l'exploitation, si vous ne voulez pas que la SAFER récupère toutes vos terres et les redistribue sans que vous ayez votre mot à dire.
La SAFER et tout le reste, j'en fais mon affaire, et puis j'aime pas bien qu'on me dise ce que je dois faire.
Vous êtes en train de prendre une sale habitude, tout joli monsieur que vous êtes.
Je voulais juste vous prévenir, c'est mon métier.
Moi vivant, personne ne mettra les pieds ici pour y rester, et estimez-vous heureux que j'ai accepté de causer avec vous.
Cette lecture est terminée pour aujourd'hui. Nous reprendrons la suite du roman de Franck Buys, Grossir le ciel, la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.